Mais vous voyez comme le pays d'Israël est devenu plus grand par cette guerre. Mais la Russie, donc l'Union soviétique, a apporté des armes modernes dans une quantité incroyable aux pays autour d'Israël pour aider un deuxième essai de destruction totale. Et dans les années 1960, le président de l'Égypte, qui était le grand conducteur dans le monde arabe, a dit « Maintenant, c'est le moment où on va vraiment détruire Israël, effacer. » Il a construit cet hôtel en Alexandrie, l'hôtel Palestine, et là, il a discuté avec les conducteurs des autres nations comment on va détruire Israël. Là, on a décidé la destruction d'Israël. Et la suite était la guerre des six jours, à partir du 5 juin 67. Le but était la destruction d'Israël. En quelques heures, le pouvoir aérien de l'Égypte et de la Syrie était détruit par terre. Des avions israéliens sont allés en Égypte, en Syrie, avant que les pilotes sont allés dans les avions. On a cassé tous les avions sur les aéroports. Et voilà, d'abord c'était surtout la Syrie et l'Égypte qui essayaient de détruire Israël. Ensuite, la Jordanie a commencé à entrer à la guerre. Et puisqu'on avait déjà dit au roi Hussein de la Jordanie, si toi tu entres dans cette guerre, tu vas subir des conséquences terribles. Il a quand même commencé, et c'est pour ça que les parachutistes israéliens ont reçu le commandement de conquérir Jérusalem de l'Est et le mont du Temple, à cause de cela. Et voilà, ils ont, pendant ces six jours, ils ont conquis le mont du Temple à Jérusalem, et le mont de Sion est de nouveau dans les mains des Juifs, ce qui n'était plus le cas en principe depuis l'an 70. Psaume 126, quand l'Éternel rétablit le sort de Sion, le mont du Temple, nous étions comme ceux qui songent. Alors notre bouche fut remplie de rire et notre langue de chant de joie. Alors on dit parmi les nations, l'Éternel a fait de grandes choses pour ceux-ci. L'Éternel a fait de grandes choses pour nous. Nous en avons été réjouis. Après six jours, c'était fini. Voilà, de retour au temple, au mur des Lamentations, qui est le mur ouest original. Donc un reste du mur extérieur du deuxième temple à l'époque du Seigneur Jésus-Christ. Après six jours, une nation a survécu. Voilà l'étoile de David au ciel, le signe du Messie qui va un jour venir comme le prince de la paix. Les conséquences de la guerre, conquête de la péninsule du Sinaï, de la bande de Gaza, de la Cisjordanie, du Golan et de la vieille ville de Jérusalem avec le mont du Temple. N'est-ce pas? La péninsule du Sinaï et la bande du Gaza devaient être une sécurité contre l'Égypte, la Cisjordanie une sécurité contre la Jordanie et le Golan une sécurité contre la Syrie. Mais vous pouvez comprendre ce moment où on est enfin de nouveau le mont du Temple. C'était donc un point culminant de ce désir de 2000 ans de retourner à Sion. D'ailleurs, le terme sionisme veut dire un mouvement qui aime le mont du Temple. Et voilà Israël Ariel, c'est un rabbin qui était un des parachutistes qui ont conquis le mont du Temple. Il est rabbin et fondateur de l'Institut du Temple à Jérusalem. Et dans les années passées, ils ont reconstruit un grand nombre des ustensiles du Temple. Voilà, pour la première fois depuis l'an 70, Israël possède de nouveau un chandelier d'or, une menorah, pour être utilisé au temple. Et j'ai vu l'autel d'or qui est préparé, j'ai vu la table d'or pour les pains, etc. Tout est préparé pour le troisième temple. Toutes ces choses-là. Ici, nous sommes devant la maison d'une autre organisation qui s'appelle Ateret Kohanim, couronne des sacrificateurs. Là, on forme des sacrificateurs qui sont les descendants d'Aaron. Ce sont des Juifs qui ont des noms comme Kohen, en hébreu prêtre, sacrificateur, Kahane, Levi, Levinson, etc. Lévi, ça veut dire, et ils viennent de la tribu de Lévi, la tribu de la sacrificature. Voilà, Salomon Gershon, le fondateur des fidèles du mont du Temple. Il était aussi un soldat qui a conquis le mont du Temple. Et ils ont déjà préparé la première pierre pour le troisième temple. C'est donc une pierre qui a son origine au désert du Negev. Le poids, 3,5 tonnes. Et elle était travaillée sans outils de fer. La Bible dit que dans les derniers jours, donc dans l'époque où les Juifs vont retourner au pays des ancêtres, ils vont reconstruire le temple. Donc ça, c'était clair déjà depuis l'Ancien Testament, sans voir les questions politiques. N'est-ce pas? C'est important, ça donne un angle de vue tout à fait différent. Par exemple, en Apocalypse 11, « Et il me fut donné un roseau, semblable à une verge, et il me fut dit, « Lève-toi et mesure le temple de Dieu et l'autel et ceux qui y adorent. » Dans le contexte, il s'agit des 3,5 ans, juste avant le retour de Jésus-Christ. Et le prophète Jean, dans le Nouveau Testament, voit un temple juif à Jérusalem. Il y a beaucoup d'autres passages qui en parlent. Vous voyez, nous avons parlé de 69 semaines d'année jusqu'au Messie. Mais Daniel a parlé de 70 semaines d'année. Et voilà, on peut montrer dans le texte que la 70e semaine de Daniel va avoir lieu juste avant la venue du Messie comme juge du monde. Donc vous voyez, il y a donc une interruption entre la 69e et la 70e semaine de Daniel. D'ailleurs, c'est le temps du christianisme. C'est le temps de la mission mondiale entre deux. Alors, avant cette période de 7 ans qui va encore avoir lieu dans l'avenir, il y aura l'enlèvement de l'Église. Les vrais croyants vont partir avant la grande catastrophe mondiale. Et vous voyez, la Bible explique que cette période de 7 ans est divisée en deux périodes de 3,5 ans et 3,5 ans. Et après, Jésus-Christ va revenir. Alors, on peut s'imaginer, mais qu'est-ce qui se passe si on bâtit un temple, un troisième temple, sur le mont du Temple? N'est-ce pas? C'était déjà décrit dans la Bible, avant que l'islam ait apparu au 7e siècle, après Jésus-Christ. Donc, c'était déjà écrit dans la Bible. Mais au 7e siècle, après Jésus-Christ, les musulmans ont bâti cette mosquée importante sur l'emplacement du temple. Alors, le conflit était prédestiné. Et le psaume 2 dit, « Pourquoi s'agitent les nations et les peuples méditent-ils la vanité ?» Vous voyez, ça va donner un conflit énorme. Mais la Bible dit, dans cette époque, après l'enlèvement de l'Église, il y aura un réveil en Israël. Les prophètes ont toujours parlé du résidu d'Israël qui va tourner vers le Seigneur. Ésaïe 37, le résidu reviendra, le résidu de Jacob au Dieu fort. Ésaïe 21, 37, 32, car de Jérusalem sortira un résidu et de la montagne de Sion ce qui est réchappé. La jalousie de l'Éternel des armées fera cela. Donc, une partie de la population juive va reconnaître Jésus, le Messie. Ils vont faire le calcul des semaines de Daniel. Le grand rabbin Moshe ben Maimon, au 12e siècle, a dit, il ne faut pas calculer ces semaines. Parce que ça trouble lorsqu'on réalise que ces temps sont écoulés et le Messie n'est pas venu. Alors c'est tout simple, il faut dire, oui, le temps est écoulé, le Messie est venu. La Bible dit, dans cette période-là, viendra l'Antichrist. Donc le plus grand séducteur de l'histoire. Et il dira, moi je suis le Messie. Et tous les Juifs qui n'acceptent pas Jésus-Christ comme le Messie, alors, ils sont perdus. Ils vont accepter. La masse va accepter l'Antichrist, le faux Messie, le plus terrible. Et voilà, finalement, lui, il va haïr le troisième temple. Et il va mettre une idole dans le temple pour rendre impur le temple. Vous voyez, le peuple juif va se diviser en Israël, en deux groupes. Donc ceux qui croient en le Messie Jésus et l'autre groupe qui va suivre l'Antichrist. Et voilà, le Seigneur dit en Matthieu 24, 15, « Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation, dont il a été parlé par Daniel le prophète, établi dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne. Lorsqu'il mettra cette abomination, cette idole dans le temple, il faut comprendre que la fin va venir. Matthieu 24, 16 et 21. Alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes. Car alors il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Et qu'il n'y en aura jamais. Le pire des guerres mondiales va commencer. Et d'ailleurs par une attaque du nord de beaucoup de nations. La Syrie, avec beaucoup d'autres nations, vont attaquer Israël et détruire tout le pays. Vous pouvez lire Daniel 11, 45, Joël 2, Ésaïe 20, 28, Zacharie 12 à 14, et on peut dans le détail expliquer comment la guerre va dérouler. Et voilà, le Seigneur dit, « Et si ces jours-là n'eussent été abrégés, nulle chair n'eût été sauvée. » Mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. Apocalypse 11 explique, cette période va être une guerre mondiale de 1260 jours. Autrement, l'humanité va se détruire soi-même. Alors vous voyez, la ville de la paix, Jérusalem veut dire la ville de la paix, sera au centre du conflit mondial. Zacharie 12, verset 2, « Voici je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement. » Pour tous les peuples d'alentour. Tous, ils veulent Jérusalem. Une catastrophe pour Israël. Zacharie 13, verset 8. Et il arrivera dans tout le pays, dit l'Éternel, que deux parties y seront retranchées et expireront. Mais un tiers y demeurera de reste. Et le tiers, je l'amènerai dans le feu, et je les affinerai comme on affine l'argent, et je les éprouverai comme on éprouve l'or. Ils invoqueront mon nom, et moi je leur répondrai, je dirai, c'est ici mon peuple. Et lui dira, l'Éternel est mon Dieu. Deux tiers de la population israélienne va mourir dans cette guerre sous la direction de la Syrie, avec tous les alliés. Mais un tiers dans cette tribulation va se tourner vers Jésus-Christ, le Messie. Et ensuite, à la fin de cette guerre, Jésus-Christ va revenir. Donc sur le point culminant de cette guerre, Zacharie 14, 3. Et l'Éternel sortira et combattra contre ces nations. Et ses pieds se tiendront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est en face de Jérusalem vers l'Orient. Là où Jésus-Christ est parti, il va revenir sur le mont des Oliviers. Et il va délivrer le résidu, ce tiers d'Israël. Zacharie 12, verset 10. Et ils regarderont vers moi celui qu'ils auront percé. Et ils se lamenteront sur lui comme on se lamente sur un fils unique. Et il y aura de l'amertume pour lui, comme on a de l'amertume pour un premier-né. Ils vont pleurer. Voilà, c'est celui qu'on avait crucifié. Et maintenant, il est là, vivant devant nous. C'était quand même le Messie. Et ils vont prier Ésaïe 53, verset 3 par exemple. Il est méprisé et délaissé des hommes, homme de douleur et sachant ce que c'est que la langueur. Et comme quelqu'un de qui on cache sa face, il est méprisé. Et nous n'avons eu pour lui aucune estime. Certainement, lui a porté nos langueurs et s'est chargé de nos douleurs. Et nous, nous l'avons estimé battu, frappé de Dieu et affligé. Mais il a été blessé pour nos transgressions. Il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment de notre paix a été sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous avons tous été errants comme des brebis. Nous nous sommes tournés chacun vers son propre chemin. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Nous devons comprendre, Jésus-Christ était le sacrifice pour nous. Et nous pouvons le comprendre déjà maintenant. Jésus-Christ était le sacrifice pour nous. Il ne faut pas attendre jusqu'à ce que le juge du monde va venir. Là, ça sera trop tard pour vous. Donc il faut avoir la paix avec Dieu maintenant. Et je souhaite cette paix avec Dieu à chacun qui est ici. C'est tout simple, le principe reste le même. Il faut réaliser, nous sommes des pécheurs. Nous ne pouvons pas observer les commandements de Dieu. Donc il faut que nous confessions nos péchés à Dieu dans la prière. Et il faut que nous comprenions, nous avons besoin d'un substitut pour nos péchés. Et il faut recevoir le sacrifice de Christ. Ainsi, Jérusalem devient la raison pour recevoir la paix avec Dieu, pour ce monde qui rejette Christ et la Bible. Jérusalem va devenir la cause de la plus grande catastrophe. C'est notre choix. Jérusalem est la chance pour la paix avec Dieu. Autrement, Jérusalem devient la cause de la catastrophe. Et j'espère que chacun ici peut recevoir cette paix avec Dieu aujourd'hui.